Bonsoir. Présentation jeudi dernier par le gouvernement congolais et le PNUD du rapport national sur l'indice de développement humain en 2014. Concernant la RDC, ce rapport indique que des progrès ont été enregistrés. Le PNUD affirme que si la RDC maintient ce rythme de développement, elle pourrait devenir un pays émergent dans 13 ans. Quelle analyse faire de ce rapport? Nos invités sont Jean-Paul Bokechu, économiste au PNUD. Bonsoir Jean-Paul Bokechu.
Bonsoir.
Alki Tengue, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes analyste économique et stratège. Professeur Mathieu Kalele, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Kinshasa et président du Front pour un nouveau type de Congolais, parti politique de l'opposition. Mesdames et messieurs, à tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le gouvernement congolais et le PNUD ont présenté jeudi dernier le rapport national sur l'indice de développement humain en 2014. Pour la RDC, le rapport présente un indice de développement humain supérieur à celui présenté dans le rapport mondial couvrant la même période en 2013. Agathe Mpona Elema pour les explications.
Le rapport mondial indique que l'espérance de vie en 2014 était de 50 ans, tandis que les données actuelles au niveau national donnent plutôt une espérance de vie de 51 ans. Le revenu par habitant tel que présenté dans le rapport mondial est situé à $444 par habitant en 2014, tandis que les données récentes des experts nationaux fixent ce revenu à plus de $700. Gouvernement et experts congolais affirment que le progrès enregistré dans le classement de l'indice de développement humain, IDH, est conforme à la réalité. Selon eux, la différence entre le rapport national et le rapport mondial est dû à un manque d'effort par le gouvernement dans l'actualisation des données de la RDC et dans la transmission parfois tardive de ces données au niveau des instances internationales. Faiblesse auxquelles le Premier ministre Matata Ponyo, qui a lancé le rapport, a promis de remédier. En dépit de cela, vu sur le plan national, le pays reste toujours dans la catégorie des pays à indice de développement humain faible, mais le PNUD affirme que si le rythme de progression de la RDC reste soutenu, il faudrait un minimum de 13 ans à la RDC pour atteindre l'objectif de l'émergence qu'elle s'est fixée en 2035. Notons que l'IDH est un indicateur de développement humain mesurant la qualité de vie atteinte par un pays et a trois composantes, la santé, la longévité, l'instruction et le niveau de vie décent.
Merci Agathe Mpona Elema. Jean-Paul Bokechu, je rappelle que vous êtes économiste national du programme des Nations Unies pour les développements PNUD. Pour commencer, commençons par le commencement. L'émission est également pédagogique. C'est quoi l'indice de développement humain?
Merci beaucoup Alain pour la question. Je pense la dernière présentation de Madame Agathe, elle a quand même rappelé qu'est-ce que l'indice de développement humain. Au fait, l'indice de développement humain, c'est un indice composite, un indicateur qui montre le degré de développement humain dans un pays. La différence, c'est que l'indice de développement humain ne se limite pas seulement au niveau de revenus, mais il prend aussi en compte les autres aspects sociaux qui sont l'éducation et la santé. Et l'indice de développement humain a été créé par le PNUD dans les années 1980. C'est à cette suite-là, puisque avant cet indice, on comparait les pays beaucoup plus à partir du niveau de revenu, c'est-à-dire le PIB par habitant. Ça voulait dire qu'une économie qui a un PIB plus grand, on supposait que les conditions de vie étaient meilleures qu'un pays qui a un PIB plus petit. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que certains pays qui avaient des niveaux de revenus plus élevés n'avaient pas le niveau de vie meilleur que ça. C'est pour cette raison que le PNUD dans les années 80 a créé cet indice et depuis ce temps, il lance un rapport sur le développement humain qui fait les avancées des pays dans ces trois domaines pris ensemble qui sont les revenus, l'éducation et la santé.
Alors, quand on dit que la RDC présente un indice situé à 0,414, une cote légèrement supérieure à celle de l'année précédente qui donnait à la RDC 0,338 points, en français facile, qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
En français facile, c'est-à-dire, comme l'indice de développement humain lui-même le dit, il mesure les niveaux de vie, c'est-à-dire des bien-être des populations. au-delà du niveau de revenus, de ce que l'argent ou les quantités monétaires qu'un individu peut avoir. Ça veut dire que cet indice, avec son amélioration, comme on le voit, ça montre qu'il y a eu un changement dans le bien-être des individus. Et là, il faut entrer dans les composantes de l'indice pour voir à quel niveau il y a eu ces changements. Est-ce que c'est au niveau du revenu? Est-ce que c'est au niveau de la santé? Ou est-ce que c'est au niveau de l'éducation?
Alors, en ce qui concerne la RDC, c'est à quel niveau que se présente cette évolution?
L'évolution, quand on analyse les sources de variation observées au niveau de l'IDH, si on considérait donc les données nationales, on remarque que l'amélioration, c'est au niveau de tous les indicateurs. Et je pense tout à l'heure, Madame Agathe a pu rappeler, donc l'espérance de vie est passée de 50 à 51. Ça, c'est un indicateur qui indique qui est dans le domaine de la santé. Et si on va du côté de l'éducation, on a deux sous-indicateurs. Il y a la durée moyenne de scolarisation qui passe de 3 ans à 8 ans. Et la durée attendue de scolarisation qui passe de 9,7 à 11 ans. Et il y a les derniers indicateurs, c'est-à-dire au niveau du revenu, où l'on voit que le revenu par habitant en parité du pouvoir d'achat qui passe à 444 $ à 732 $.
Alors, on a suivi dans le reportage d'Agathe Mpona qu'il y a des problèmes des statistiques. On sait également que c'est un problème qui n'est pas propre à la RDC. Peut-on se fier à ces chiffres?
Merci beaucoup, Monsieur Alain. Ça, c'est la question de se fier à ces chiffres. C'est-à-dire, il y a d'abord un problème. Ce qui est avantageux, c'est-à-dire, c'est que le rapport mondial, quand il a été publié en 2014, il a révélé qu'il y avait des disparités des données entre les données qui étaient utilisées pour la RDC et les données qui étaient disponibles au niveau du pays. Et les données qui sont disponibles au niveau du pays, ce sont des données qui viennent des enquêtes générales qui sont menées au niveau du pays, que tout le monde sait et tout le monde en parle. Donc, notamment, on connaît bien, il y a les rapports, l'enquête 1 des 3 qui est menée au niveau du pays, qui a été réalisée en 2005, puis elle a été réalisée également en 2012. Il y a l'enquête EDS, l'enquête démographique et de santé, qui est réalisée régulièrement aussi dans le pays. Cette enquête a été réalisée en 2007, puis récemment en 2013-2014. Et il y a enfin, dans le domaine du revenu, nous sommes tous informés que le pays avait révisé son produit intérieur brut en utilisant le système comptable de 1993 qui a conduit à une réévaluation de plus de 50% du produit intérieur brut. Parce qu'avant, on était dans le système comptable 68.
Alors, il y a Teddy qui nous écrit de Bukavu Sud Kivu qui dit « Après la publication du dit rapport, je me demande si les échantillons ont été bien choisis, car jusque-là, aucun changement n'a été remarqué dans le social de Congolais, après ce rapport publié en 2014. »
Merci beaucoup. La question, ce n'est pas vraiment qu'après la publication de ces rapports, qu'on voit des changements, parce que comme je venais de le dire, les rapports nationaux sur le développement humain utilisent les données nationales qui viennent des documents déjà publiés. Et les enquêtes, que ce soit l'enquête démographique et de santé généralement connue sous EDS, ou que l'enquête, que ce soit l'enquête 1 des 3, sont des enquêtes qui ont été déjà réalisées ici à une échelle nationale. Et les données ont été même discutées avec des agences spécialisées internationales qui ont confirmé toutes les questions de méthodologie et des résultats qui ont été publiés. Merci. Et toutes ces enquêtes sont aussi en ligne disponibles.
Professeur Mathieu Kalele, vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Kinshasa et président du Front pour un nouveau type de Congolais, parti politique de l'opposition. Professeur, comment vous analysez ce rapport?
Bon, c'est des données classiques, mais ce qui est le plus important pour moi comme politique, pour la population, c'est le vécu quotidien. est-ce qu'il s'améliore ou est-ce qu'il ne s'améliore pas du tout? On peut nous dire que le Congo a gagné 13 points, 20 points, 50 points. Ça, c'est des scientifiques, dans des analyses trop savantes. Mais la réalité sur le terrain, c'est qu'au contraire, nous sommes en train de reculer en termes de misère, en termes de desserte en eau, en termes de desserte en électricité, en termes de niveau de l'enseignement. C'est une baisse. Lorsque j'entends dire qu'on calcule, par exemple, le revenu moyen par tête d'habitant, on nous dit en moyenne, chaque Congolais a $75 maintenant au lieu de $40. Mais tout ça, c'est de la supercherie. Si je prends quelqu'un qui gagne $200, un deuxième gagne $10, un troisième gagne $0. La moyenne, c'est la sommation de 200 plus 10 plus 0 divisé par 3. Ça va vous donner 30. Mais qu'est-ce que le type qui a 0 peut acheter avec ce 0-là en disant, moi, en moyenne dans mon pays, c'est $70. Non. On réduit les $200 et on les répartit à celui qui a 10, à celui qui a 0. C'est un calcul pour masquer les inégalités sociales. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est le vécu quotidien de la population. Alors, les calculs nous montrent qu'on avance, mais la réalité nous montre qu'on est en train de reculer.
Professeur, vous êtes également scientifique, professeur de sociologie. Y a-t-il quelques chiffres à votre disposition qui démontrent que la RDC est en train de reculer, par exemple?
Bon, les chiffres, prenez simplement, par exemple, le niveau d'enseignement. Moi, je suis au niveau universitaire. Vous avez fait l'université à un certain moment, avant la période actuelle. Vous savez que dans le temps, à l'école primaire, du temps de la colonisation, quelqu'un qui terminait la cinquième primaire savait lire, écrire et même enseigner. Aujourd'hui, vous prenez les jeunes gens qui terminent le secondaire. Combien savent écrire? À l'université, de plus en plus, les gens ne savent ni écrire, ni lire. Ça saute aux yeux. Vous prenez la desserte en eau et en électricité. À Kinshasa, combien de zones, combien de quartiers ne restent pas dans l'obscurité et sans eau et qui prennent de l'eau des rivières ou des puits? On ne parle même plus de la desserte en eau dans les milieux ruraux. Nous sommes en train de reculer.
Alors, professeur, la sociologie, c'est également les statistiques. Je posais tout à l'heure la question à Jean-Paul Bokichou si on pouvait se fier aux statistiques présentées, connaissant ce que sont nos statistiques. Pensez-vous, de votre point de vue, qu'on peut s'y fier?
Non, les statistiques, je dis que c'est de la science. On va même appeler ça science exacte. Moi, je dis, quand les gens entendent parler de stabilisation de cadre macroéconomique, quand ils entendent parler de l'amélioration, quand ils entendent parler de l'électricité partout dans les villages, combien de gens y croient? Combien de fois par semaine, vous là, chez vous, vous avez du courant?
Et donc, professeur, si je comprends, en d'autres termes, vous voulez dire que c'est simplement pour la consommation extérieure, ce genre de rapport?
Oui, ça a été inventé. Dans certains pays, ça se justifie quand on voit réellement que le niveau de vie s'améliore, le nombre de chômeurs diminue. Vous savez qu'en Occident, là, on ne parle pas de ces histoires d'indices de développement humain, on parle plutôt de variations en termes d'emploi. Combien de chômeurs nous avons maintenant? Ça a diminué ou ça a augmenté? Ici, on met le tout ensemble.
Merci.
Le système sanitaire est en baisse, le système scolaire est en baisse, le niveau de vie est en baisse. Au village, si vous êtes allé là dernièrement,
merci.
Beaucoup de gens se promènent pratiquement nus. Comment on peut nous faire croire que nous sommes en train de progresser?
Merci, professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Alki Tengue, vous êtes analyste économique et stratège. Pour vous, comment vous avez reçu ce rapport présenté par le PNUD et le gouvernement congolais?
Merci beaucoup, Alain. Moi, j'ai eu le privilège de piloter justement la présentation de ce rapport et je voudrais commencer par corriger deux choses. D'abord, ce que Agathe a dit tout à l'heure, le rapport ne dit pas qu'en 13 ans, nous allons devenir un pays émergent. Le rapport dit qu'en 13 ans, nous allons devenir un pays dont le développement humain est moyen, le niveau de développement humain est moyen. En tout cas, on ne parle pas d'émergence du tout. La deuxième des choses... c'est que les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure, 0,338 et 0,414, il ne s'agit pas d'une comparaison de deux années différentes. C'est la même année, l'un avec les chiffres collectés par les institutions internationales et l'autre avec des chiffres collectés par le gouvernement et la communauté internationale utilisant la même méthodologie. Donc, commençons par être suffisamment clairs, la presse a commis énormément d'erreurs cette semaine sur la question. Il ne s'agit pas en 13 ans de passer d'une nation pauvre à une nation émergente. Il s'agit simplement d'être un pays à revenus moyens. Et donc, ceci dit, il faut quand même être à mesure de comparer ça de manière assez claire avec des chiffres qui sont disponibles sur le même rapport. Lorsque vous regardez le point de coupure de 0,6, il est légèrement inférieur à celui du Gabon aujourd'hui qui est à 0,674. Donc vous tenez bien avec moi qu'en 2028 ou en 2030, si nous atteignons 0,6, qui est le point critique pour passer de la situation d'aujourd'hui à la situation des pays à indice de développement moyen, nous aurons encore un niveau largement inférieur à celui du Gabon aujourd'hui. Et le Gabon n'est pas un pays émergent. Ceci dit, ce rapport me donne un plaisir énorme. Pour la première fois, les Congolais se soucient de donner une appréciation sur leur propre devenir et leur propre performance. Vous savez, en 2008, quand les banques américaines sont tombées en faillite, Standard & Poor's et Moody's leur donnaient des cotes 3A. Ça veut dire qu'en fait, les critères internationaux de comparaison ont un côté que moi je considère comme étant diplomatique. Il faut donc s'en détacher. À un moment donné ou à un autre, les critères de performance doivent être domestiques d'abord avant d'être des critères de performance internationaux. Nous devons nous approprier notre capacité à nous mesurer, à mesurer notre capacité d'avancer. Et c'est donc une très bonne chose que le gouvernement ait pris le courage de dire au PNUD, refaisons le travail ensemble en regardant les données dont nous disposons, en regardant les informations que nous collectons de la même manière. Et ce rapport est un rapport conjoint entre le gouvernement et le PNUD. Et ça montre clairement que nous ne sommes pas les derniers que l'on était en train de décrire, même si notre position n'est pas exagérément bonne, n'est pas nécessairement aussi bonne que nous souhaiterions qu'elle soit. Et ceci dit, ça montre quand même que nous avons la capacité de nous mesurer et nous savons exactement la difficulté qui est devant nous. La plus grosse difficulté du Congolais, c'est de des fois penser que derrière les statistiques, c'est des êtres imaginaires. Derrière les statistiques, c'est des vies humaines et des personnes humaines. Et il faut donc qu'on soit clair. Je voudrais donner un indicateur là-dessus. Lorsqu'on présente les chiffres, et le professeur Kalele a peut-être eu raison d'en parler tout à l'heure, lorsqu'on parle d'une moyenne arithmétique, il faut faire très attention. Et le rapport est clair. Il montre par exemple que le Kasaï occidental, son indice de développement humain est de 0,278, qui est près de la moitié de celui de Kinshasa, qui est de 0,537. Ça veut dire qu'il y a effectivement des disparités, mais elles apparaissent scientifiquement. Je ne vois pas ce qui pourrait inquiéter le professeur Kalele de ce point de vue. Et donc, ça montre clairement que le Congo est conscient de la qualité de son développement et de la mesure de son développement.
Alors, Al Kitenge, vous félicitez le fait que la RDC peut se fier sur des critères de performance domestique, mais le professeur Kalele, dont vous parlez, dit que ces chiffres ne sont pas conformes à la réalité.
Non, je pense que vous devrez laisser un peu de paix au professeur Kalele. Il est sociologue. Nous sommes en train de parler des questions économiques et je suis sûr qu'il les comprend parfaitement bien, mais ce n'est pas sa spécialité. Et donc, ne le cherchez pas outre mesure. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le Congo est conscient du fait que nous avons réussi à ramener un minimum de discipline au niveau de la gestion de l'État. C'est indiscutable. Le professeur Kalele est professeur d'université. Il sait ce que ça veut dire. Il n'a qu'à regarder un petit peu dans notre histoire récente. La seule vérité, et tout le monde le sait, c'est que notre croissance économique, par exemple, est portée par un secteur qui est à capitaux intensifs. C'est le secteur minier. Ça veut dire qu'en fait, le gouvernement a pris conscience d'un besoin de diversification pour que nous ayons une économie à large footprint, pour que nous soyons en mesure d'avoir un impact sur le plus grand nombre d'entre nous. Mais je le dis toujours ici, de manière assez claire, Alain. Ce n'est pas une question de tête politique, c'est une question de réalité congolaise, d'une réalité que les politiciens congolais ne veulent pas regarder en face. L'assiette financière de la République démocratique du Congo est minable. Elle ne peut pas permettre, avec n'importe quel degré de dextérité politique, de pouvoir donner des réponses immédiates aux Congolais. Je voudrais vous donner deux indicateurs. Le premier, nous avons le même budget que le Congo en face pour 4 millions de personnes. Ce n'est pas envisageable. Il est donc important que nous fassions exploser la bulle. Et la seule chose qui nous empêche de faire exploser la bulle, c'est justement l'incapacité du corps politique à se mettre ensemble pour décider sur quel ressort nous bondissons pour aller beaucoup plus haut.
Merci. Jean-Paul Boketchou, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Manono au Katanga.
Babayou, depuis Manono, dans la province du Katanga, je caractérise ce rapport de complexe car ayant peut-être tenu compte du standard de vie d'un Congolais du centre urbain, un Congolais d'un centre rural où manque l'électricité, l'eau potable, les routes, ainsi de suite, ne peut en aucun cas accorder le moindre crédit à ces rapports.
Réaction Jean-Paul Boketchou.
Oh, ok, merci beaucoup Alain et je remercie mon ami Kabayo. Monsieur Kabayo, ce que je dois d'abord lui dire, parce que je dois rentrer dans la source des données qui alimentent ces rapports. Et cette source, ce sont les, comme je disais tout à l'heure, si je prends les cas, que ce soit de l'enquête démographique et de santé, ou que ce soit l'enquête 1D3, spécialement cette enquête 1D3, qui a montré, je suis d'accord avec mon ami, que quel que soit à ce niveau, le niveau de pauvreté dans les provinces et dans les centres urbains, ce n'est pas le même. Et donc, nous sommes tous d'avis. Et je crois mon ami Al Kitenge disait tout à l'heure, une autre manche du rapport que parfois on n'exploite pas beaucoup, la question des inégalités qui existent, non pas seulement entre les provinces, mais aussi dans les milieux de résidences, c'est-à-dire le niveau de vie dans les centres urbains n'est pas le même que dans les provinces et tout ça, ça se reflète ensemble. Et c'est pourquoi quand on considère tout ça, c'est ça un message que le rapport a pu envoyer, c'était de pousser le gouvernement pour amorcer et renforcer le processus de transition sociale qui est engagé pour réduire les inégalités dans toutes leurs dimensions, que ce soit verticale ou horizontale, c'est-à-dire entre les provinces horizontalement et verticalement, c'est-à-dire entre les individus. Et ça, c'est très, très important, c'est un élément aussi clé du message.
Alors, en parlant des provinces, Al Kitenge l'a relevé, c'est par exemple Kinshasa qui a l'indice le plus élevé, avec 0,537, suivi du Bas-Congo, 0,459, le Sud-Kivu, 0,442, et le Kassai occidental est vraiment est la dernière province avec 0,278. Jean-Paul Boketchou, comment vous expliquez ces inégalités?
Merci beaucoup Alain. Si on regarde la structure des inégalités à travers les provinces, si on remarque le message le plus important, c'est d'abord les quatre provinces qui sont au-dessus de la moyenne nationale. Et ces quatre provinces sont principalement Kinshasa, Bas-Congo,
Sud-Kivu
et Katanga. Et toutes les autres sont en dessous de la moyenne. Et quand vous regardez ici, comme je disais mon ami Al-Kitenge tout à l'heure, c'est-à-dire entre nous économistes, on les connaît. Si vous regardez la structure économique de ces quatre provinces, sont soit des provinces dotées en ressources naturelles et qui sont en exploitation avec des entreprises majeures au sein, notamment le Katanga que je n'ai même pas à citer le nombre d'entreprises, et le Sud-Kivu où il y a aujourd'hui l'exploitation de l'or avec des majors comme Baro qui sont là. Par contre, le Bas-Congo et Kinshasa, s'ils ne sont pas dotés suffisamment en ressources naturelles, mais ils sont suffisamment dotés en infrastructures économiques qui permettent donc de faire monter le niveau de l'activité économique et donc augmenter les revenus et améliorer les conditions. Par contre, les autres provinces, c'est bien que c'est parfois ça peut être mitigé, mais présente soit une carence en infrastructures, soit en dotation, en ressources naturelles. Et là, il y a une importance vraiment de diversification économique au niveau du pays à travers la spécialisation des provinces dans ce qu'ils ont pour essayer de niveler les niveaux de vie.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à l'observation selon laquelle ce type de rapport est fait pour la consommation extérieure?
Je dirais d'abord... ce qu'on doit se féliciter, je crois, mon ami Al-Kitenge a dit ici, c'est d'abord, il faut se féliciter, quand surtout, ce sont des rapports qui viennent de nous-mêmes, et au niveau du pays, et pour soulever les débats. Et les rapports nationaux sur le développement humain ont cette vocation, c'est de soulever les débats au niveau des politiques et au niveau de nos orientations stratégiques. Ce n'est pas d'abord pour la consommation extérieur. Il est vrai parfois que beaucoup de gens n'ont pas eu le temps de pénétrer ces rapports et de pénétrer les éléments de ces rapports pour voir. Ce sont des éléments qui sont vrais et qui sont analysés de manière rigoureuse et qui doivent demain nous lancer dans nos politiques et dans les dialogues sur nos stratégies.
Merci professeur Kalili. Nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de la province orientale.
Aider la France Boudil-Gélé depuis Mbokolo en territoire d'Arou, province orientale. Nous saluons ce rapport encourageant la RDC d'être classée sur la liste des élèves en évolution relativement aux indices de développement humain. Mais attendre 13 ans, il faut deux mandats présidentiels pour concrétiser cette émergence en développement, sinon ses rêves en respirant les archives des organismes qui réalisent ces bons projets. Il faut pour cela élire des dirigeants capables de promouvoir le social du peuple étant les moteurs même du développement.
Réaction professeur Kalele Al-Kitenge a épinglé l'incapacité de l'élite politique.
Non, je crois que nos amis là, économistes, doivent savoir que il n'y a pas d'économie pour l'économie. Il y a l'économie pour le social. Ils ne sont pas dans les auditoires. Si l'économie marche bien, on doit en vivre les effets bénéfiques dans le vécu quotidien du Congolais. On ne va pas spéculer sur les chiffres pour spéculer. Je ne sais même pas si le Congolais en général ici est en train de comprendre ce qu'on dit là, indice 2, indice 3, etc. Ça lui dit quoi concrètement? Et notre ami qui vient de poser la question, et je crois qu'il a raison, lorsqu'on dit dans 13 ans, on sera ceci, on sera cela. C'est toujours le bonheur après la mort. Nous avons vécu la même chose sur Mobutu, le plan objectif 80. On a vécu ici l'effacement de la dette. On a attendu les retombées sociales. Elles sont où? Elles viennent à quelle vitesse? On a vu ici les cinq chantiers, la modernité, etc. La réalité, c'est laquelle? Vous dites à Kinshasa, par exemple, cet élève, allez à Pakadjangala, allez à Bumbu, allez à Massina dans le fond. Ces gens-là, est-ce qu'ils vivent votre progrès économique avec vos chiffres? Le Congolais, de manière générale, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il porte comme habit? C'est des usagers d'Europe. Ce n'est pas parce qu'il aime ça, c'est parce que son pouvoir d'achat ne lui permet pas de faire plus. J'ai fait l'université aussi, mais je sais que à un moment donné, ce qu'on nous a enseigné, nous devons avoir le courage de le remettre en question, avoir les deux pieds sur terre. Ce qui nous importe, nous, c'est l'amélioration de nos conditions de vie. Ce n'est pas des calculs et des chiffres que les gens ne voient pas, hein, qui ne vivent pas. Je dis très bien, à Kinshasa, vous avez des gens qui consomment l'eau de puits, qui consomment l'eau de rivière, à Kinshasa ici. Allez du côté de Kimwenga, par exemple. Allez du côté de Sangamamba. Ces chiffres-là, ça dit quoi à des gens qui habitent là-bas?
Professeur?
Oui?
Il y a Laurent Mirouo, cet internaute qui dit « Je salue ces progrès, j'aimerais vraiment qu'on concentre les efforts à venir, non pas seulement sur la rigueur, mais aussi sur la bonne gouvernance. Et surtout, je tiens à rappeler à tous que ces progrès ne signifient pas que la RDC est classée au rang des pays riches. Ça veut dire que des efforts ont été enregistrés, donc ayons de la retenue, parce que nos analyses négatives non plus ne nous font pas avancer, professeur. »
Non, ce ne sont pas des analyses négatives. On parle du progrès, de l'augmentation de la production, par exemple, dans le secteur minier. Mais les richesses accumulées là, ça reste. Combien reste? Quel est le pourcentage qui reste au pays? Quel est le pourcentage qui sort du pays? Je suis régulièrement au Katanga. J'ai de la famille au Katanga. Est-ce que le Katangais moyen là vit dans l'opulence?
Et donc, professeur,
c'est même plus que le Katangais de choses de Kinshasa.
Professeur, de votre point de vue, ne voyez-vous donc aucune avancée qui a été réalisée, si modeste, si petite soit-elle?
La production peut augmenter et elle augmente effectivement. Mon problème, mon souci, c'est les retombées pour les Congolais. C'est le Congolais moyen. Est-ce que ça contribue à améliorer leur vécu quotidien?
Merci. Merci, professeur Alkitenge. Nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient du Nord Kivu.
Gérard Kambale Kazingoufou, j'appelle à partir de Beni de la province du Nord Kivu. Ma réaction est celle-ci. Si les taux de chômage peuvent faire partie des indices du développement, je me demande par quel miracle notre pays pourra figurer à 13 ans sur la liste des pays émergents, alors que plus de 85% de sa population est désœuvrée, sans oublier qu'une bonne partie de ceux qui travaillent sont dans les ONG, c'est-à-dire sous contrat en durée déterminée.
Réaction Alkitenge.
Merci beaucoup. Encore une fois, vous voyez les dégâts que vous commettez lorsque vous, journalistes, vous reportez de manière incorrecte une information. Ça montre clairement que ce monsieur s'est simplement fié à ce qu'il a entendu ou lu et il n'a pas lu le rapport. Mais ce n'est pas le plus grave. Moi, j'ai dit simplement qu'une chose est inévitable, aussi insolente que le monde, c'est que avant de partager la richesse, il faut la créer. Ce pays ne crée pas suffisamment de richesses. Aujourd'hui, la frustration de la mauvaise répartition, elle est surtout due à la quantité disponible. Je vous donne deux chiffres, Alain. L'argent dont disposent Kabila et Matata par tête d'habitant et par kilomètre carré est 120 fois inférieur à ce dont dispose Sassou Nguesso en face et 560 fois moins que ce dont dispose le président angolais. La situation du Congo, c'est que notre corps de dirigeants politiques, de part et d'autre, ceux qui sont au pouvoir et qui sont à l'opposition, ils évitent le vrai débat, celui de la modicité des moyens dont nous disposons, d'un besoin urgent d'un plan national de développement intensif. Ça dépasse les couleurs politiques. À partir du moment où nous pourrons regarder et mettre ce problème sur la table, la discussion ne sera pas celle que mène le professeur Kalele. Cette discussion est totalement politique et ne nous sert pas à ce stade. Nous sommes en train de décrier une situation et elle est grave. La situation de notre pays, de nos compatriotes, est très grave. Et ce n'est pas le fait que l'on passe de 0,338 à 0,415 qui changerait les choses. Ce qui changerait les choses, c'est que demain, un enfant congolais, où qu'il naisse, a une opportunité de pouvoir se développer en fonction de ses compétences et de ses capacités. Et ça, ça demande que nous puissions être en mesure de nous regarder au-delà des statistiques. Ce que moi j'ai envie de dire, et ça reste simple, c'est que nous avons aujourd'hui le GSM, la téléphonie mobile, qui montre que quand on veut, on peut. Ils ont réussi, ces gens, à aller implanter des infrastructures même là où l'État n'a jamais été. Et aujourd'hui, ils en récoltent les bénéfices. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de quelque chose de fondamental. La décentralisation et le redécoupage territorial. Et il y a des gens qui amènent le débat sur la question. C'est vraiment ridicule, mais c'est justement ce que le professeur Kalele dit. Si vous allez à Kitokimonsi, mais bien sûr, quand vous allez à Kitokimonsi, il n'y a presque pas de dirigeants, le bourgmestre n'a aucun pouvoir. C'est des choses qu'il faudrait que nous réglions. Et ça, ça ne dépend pas du casting politique, ça dépend de nos choix. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on se recentre un petit peu sur le débat du jour, ce rapport, qu'est-ce qu'il dit effectivement. Ce rapport ne dit pas qu'en 13 ans, nous allons devenir un pays émergent. Ce rapport dit, si nous évoluons à 3,2% et non à 1, quelque chose pour cent, en 13 ans, nous pouvons atteindre tel niveau. Mais si nous évoluons à 1, quelque chose pour cent, c'est seulement en 37 ans que nous pouvons y arriver.
Nous allons avancer à Kitenge avec un boulet au pied, c'est une cascade des chômeurs, des emplois très peu rémunérés, un environnement social pas adéquat.
Oui, ça impose un débat de société que nous décidions comment nous voulons vivre ensemble. Aujourd'hui, il ne faut pas penser que nous aurons une baguette magique qui nous donnera des solutions. Non, la République démocratique du Congo n'a pas deux choix. Il nous faudra un jour hypothéquer une partie de nos avoirs naturels pour être en mesure de lever des capitaux, faire venir ici des partenaires qui savent travailler avec nous pour mettre en place des infrastructures et les conditions nécessaires pour que nous soyons en mesure de produire des biens et des services. En parallèle, nous devons pallier à deux choses fondamentales. Nous avons une espérance de vie de 50 ans, c'est inacceptable. Nous devons donc investir intensivement dans le secteur de la santé et nous avons 70% des gens qui ne savent ni lire ni écrire correctement. Nous devons investir intensivement dans l'enseignement. Et si nous nous dotons d'infrastructures et nous nous dotons des systèmes de santé, nous nous dotons d'infrastructures et des systèmes d'enseignement corrects, nous pouvons espérer que d'ici 15-20 ans, nous aurons des citoyens qu'il faut, des infrastructures qu'il faut et une capacité de production. Et pour ça, il y a deux solutions.
La première,
c'est emprunter et intensivement pour être en mesure d'investir. La deuxième, c'est des partenariats publics-privés et des partenariats internationaux. Le développement de la République démocratique du Congo n'est pas qu'une question de la République démocratique du Congo, c'est une question internationale et nous avons des atouts géopolitiques et géostratégiques.
Jean-Paul Boketchou, le PNUD a formulé, je pourrais dire, une forme de des recommandations. Par exemple, parle de la nécessité des stratégies efficaces et d'investissements importants dans les secteurs prioritaires, la santé, l'éducation. Mais à ce niveau-là, par exemple, on sait c'est que le budget de la RDC, comment y arriver?
Merci beaucoup, monsieur Alain. Ça, c'est très, très important. Et c'est là vraiment l'importance du rapport, c'est de lancer, démontrer de tels points. Avant d'abord de répondre à votre question, je vais juste rappeler quelque chose. Les rapports et les données qui sont utilisées ne proviennent pas des spéculations. Ça provient des données et des sources que nous tous et tout le monde, que ce soit experts, spécialistes, professeurs et tout ça, connaissent bien les sources, connaissent les méthodologies, connaissent les problèmes d'échantillonnage et tout ça. Et donc, ce n'est pas vraiment une spéculation des choses. Étant donné que nous tous, ce sont des micro-données, que nous tous, on sait comment on peut les collecter pour analyser dans une situation de dispersion. Le deuxième élément, c'est la question du rythme des progrès.
Rapidement, parce qu'il nous reste moins de 7 minutes.
Ça, c'est un élément très important que les progrès montrent. C'est-à-dire, si, avec le rythme qui est observé, si on les maintient, et ça nous demande donc de l'effort. C'est pourquoi le rapport propose aussi des axes. Comment maintenir ce rythme-là? Et c'est là, l'enseignement que vous avez rappelé, une stratégie d'abord efficace en termes de programmation, de planification, de pilotage et de mise en œuvre et des investissements importants. C'est vrai que le gouvernement est en train à engager déjà un processus fort dans le domaine de la santé, mais s'il maintient et augmente le rythme de ces investissements, on pourra avoir des résultats meilleurs.
Professeur Kalele, il faut emprunter, il faut un partenariat public-privé, il faut des investissements assez sérieux pour relever la RDC. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Je partage le point de vue sur les recommandations du PNUD. Il faut investir dans les secteurs prioritaires, la santé, l'éducation. Mais il faut entrer dans les détails. On a, par exemple, créé des universités, des instituts supérieurs à travers tout le pays. Quel est le niveau? Quel est l'équipement? Quelle est l'infrastructure? Plus on en a créé 100 professeurs, plus le niveau est en train de baisser. Lorsque également vous investissez, ça peut être les nationaux ou les étrangers, il faut avoir un regard sur ce qui est payé à ceux qui travaillent, le niveau de salaire. Si vous donnez à quelqu'un, comme dans l'État par exemple, 80 000 francs par mois, un type qui a 5 enfants, qui est locataire, qui doit payer l'eau et l'électricité, et que l'entreprise aligne son salaire sur les 80 000, vous avez résolu quel problème? Je reste convaincu que le calcul, comme on nous dit là-bas, c'est des calculs très savants. Mais ma préoccupation, c'est que ça ne devrait pas rester dans l'air. Il faut que c'est des retombées sur le terrain.
En guise de conclusion, professeur, concluez en un mot.
En guise de conclusion, c'est ce que je viens de dire. On nous a tous enseigné ces histoires-là, mais il faut les confronter à la réalité, essayer de voir que l'économie politique, c'est l'économie pour le social.
Merci,
la sociologie,
professeur.
C'est pour le social. Mathématiques, c'est pour le social.
Merci,
si ça
professeur.
Reste suspendu à l'air, ou si on prend les sommes importantes des riches pour les répartir sur papier aux pauvres, on est en train de se leurrer.
Merci, professeur Alki Tengue. Parmi les recommandations, le PNUD demande également d'amorcer la transition sociale pour réduire les inégalités et promouvoir un développement humain durable et équitable.
Oui, Alain, il faut d'abord reconnaître que le pays va mieux et qu'il faut porter les bons résultats à l'échelle. C'est ce que les gens demandent. Mais une des choses qui apparaît de manière assez claire, c'est qu'il nous faut une cohésion dans ce pays. On ne doit pas parler des 1001 langages. On doit parler un langage unique, la République, la nation. Et ça, c'est une démarche qu'il faut demander de manière tout à fait insistante à nos hommes politiques. La deuxième des choses, il faut un degré de gouvernance et une éthique généralisée. Nous devons remonter le niveau d'exigence sociale et le niveau d'exigence économique en termes de citoyens. Et aussi, il nous faut nous doter d'un plan national de développement qui est en fait notre gouvernail, qui nous donne des indicateurs de vérification. Et ça, ça permet que nous soyons en mesure de nous mesurer par rapport à un certain nombre d'objectifs que nous nous sommes nous-mêmes assignés.
Alors, le PNUD recommande également d'investir plus dans les statistiques pour disposer des données récentes susceptibles de renseigner sur l'impact des efforts engagés au niveau national sur le développement humain.
Et le PNUD a raison, parce que vous n'allez pas gérer en ayant un bandeau noir au visage. Il faut donc être en mesure de gérer en fonction d'une prévision mesurable. Vous n'allez pas dire que vous avez progressé ou vous n'avez pas progressé par votre feeling personnel. Tout doit être mesuré. Il n'y a pas de performance s'il n'y a pas d'éléments de mesure. Et donc, le PNUD insiste sur le fait que nous devons être en mesure de planifier en toute connaissance. Un pays, il doit avoir la capacité de comprendre les différentes tendances pour être en mesure d'anticiper sur les réactions.
Alors, pour terminer, Alki Tengue, la cohésion nationale, on en parle tant, mais on a l'impression que la classe politique n'y arrive toujours pas.
Le problème de ce pays, c'est que les gens gens discutent en fonction de leur propre positionnement, oubliant des fois que les défis de la République sont beaucoup plus importants. Moi, je ne sais pas à quoi ça sert de vouloir devenir gouvernant si on ne met pas en place les conditions d'une stabilité, d'une harmonie. C'est autrefois que je m'y mette, mais aussi vite que vous y êtes, la contestation commence. Et je pense qu'il est important qu'au-delà de la couleur politique, nous ayons la capacité de regarder la nation et de discuter de nos enfants, ceux qui naissent aujourd'hui, ceux pour qui nous sommes en train de prendre des décisions aujourd'hui.
Merci. Jean-Paul Bocquet, tu as une conclusion.
Merci, monsieur Alain. Pour conclure, je pense que je vais revenir. Le rapport a pu montrer surtout les disparités au niveau des statistiques et a pu recommander donc que le pays investisse fortement sur les statistiques parce qu'aujourd'hui, si on doit planifier, piloter et faire suivre le développement, on a besoin des statistiques à tous les niveaux et de bonnes qualités.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Vous pouvez retrouver cette émission sur radiocapi.net ou la réécouter à 4h15, heure de Kinshasa. Au revoir.